Je peux pas.
Je peux pas.
Je peux pas.
Je peux pas.
Pourquoi?
J'ai philo.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons accueillir deux experts, Enki Bardier et Dina Béchard, qui vont nous faire part de leur savoir sur la philosophie kantienne, l'art et la beauté. Tout d'abord, qui est cet homme, ce fameux Kant? Kant est un philosophe allemand du XVIIIe siècle, né en 1724 et mort en 1804. Penseur des Lumières allemandes, il naît et meurt à Königsberg, ne quittant jamais sa région natale. Enseignant à l'université de Königsberg, c'est l'un des premiers philosophes à occuper une chaire universitaire. Il est connu principalement pour son ouvrage « La critique de la raison pure », mais aussi pour ses réflexions en morale, en esthétique et en politique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la représentation de l'art selon Kant et pourquoi est-ce important de définir ce sentiment du beau dans l'art et quelle place occupe-t-il chez l'homme. Nous allons alors laisser la parole à nos interlocuteurs.
Alors tout d'abord, pour parler de l'art, il faut introduire que le beau n'est autre qu'un sentiment esthétique profond qu'une personne va ressentir pour l'œuvre du génie. Ce sentiment esthétique va toucher l'âme et s'introduire dans notre intimité pour nous faire ressentir le beau. Cependant, il faut faire la différence entre l'agréable et le sentiment esthétique. L'agréable est une satisfaction sensorielle. Là où le beau touchera l'âme, l'agréable va toucher le sens, l'odorat va nous toucher. Effectivement, Pierre se satisfait de l'acidité du citron quand Julie ne peut en ingurgiter une seule goutte. L'agréable peut être facilement remis en cause et dépend de notre sensibilité sensorielle, tandis que le beau reste universel. Effectivement, peu importe à quel point Pierre et Julie sont personnellement atteints par une peinture d'un très grand peintre, tous deux seront d'avis à dire que c'est une peinture de mon goût.
Vous sous-entendez donc aussi par là que l'homme serait doté d'une faculté de goût?
Effectivement, la faculté de goût présente chez un homme va être de lui reconnaître la faculté de juger du beau, et celle-ci dépend de la propre sensibilité de l'âme et ce que l'œuvre éveille dans notre subjectivité. On dit souvent « chacun ses goûts ». Cependant, on dit que le beau est universel. Prenez l'exemple d'un coucher de soleil. Celui-ci éveillera pour chacun un sentiment intérieur intense ou non, divergent selon la personne. Cependant, on pourra trouver un lien artistique presque suprême et naturel entre tous ces ressentis de l'âme exprimant l'universalité du beau.
Ah, donc le beau est donc ce qui, dans la sensibilité de chacun, est identique à celle de tous.
C'est intéressant aussi de rajouter que le beau, selon Kant, n'éveille aucun désir ni satisfaction physique. Le beau serait une satisfaction désintéressée, un attrait sans intérêt, il est pure complaisance de contemplation et plaît universellement sans concept. Il va ajouter que le beau serait le symbole du bien. Vu que ce sentiment esthétique soutient le fait que l'homme n'est pas exclusivement conduit par l'agrément et l'intérêt d'une œuvre, mais qu'il se revendique, à travers sa sensibilité artistique, comme un être désintéressé et libre. Or, la liberté est l'indice de la moralité. Alors cette sensibilité artistique révélerait d'un individu qu'il est moral et bon. Afin de revenir au plaisir universel et sans concept, le beau est, comme on l'a vu, fondé sans concept, car le génie crée son œuvre par l'intermédiaire d'aucune loi ou aucune norme artistique.
Donc alors ce beau est production d'un génie. Mais qu'est-ce que vraiment un génie, comme vous dites ?
Alors, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire d'un autre qu'il est un génie, que ce soit un peintre, un musicien ou peut-être même vous. Mais revenons aux origines, d'où vient cette idée de génie ? Ici, nous allons nous concentrer sur le génie défini par Kant. Pour commencer, le génie est un don de la nature, il est donc naturel et inexplicable. Comme Kant le dit, le génie est le talent qui permet de donner à l'art ses règles. Comme c'est la nature qui donne ses règles à l'art, alors l'art produit par le génie ne peut être expliqué ni reproduit. Il est donc original, mais aussi pouvant servir de modèle. Étant donné que, comme dit plus tôt, le génie ne crée pas le beau selon des règles définies et ne peut être expliqué scientifiquement, il est normal qu'on ne puisse pas discuter, mais discuter. Je m'explique. Discuter, c'est par exemple débattre scientifiquement. Disputer, c'est être devant un tableau. Vous, vous aimez beaucoup et votre ami non. Et là, vous essayez, disons, de transmettre votre expérience à travers des arguments non rationnels. Et donc discuter, pour faire une petite synthèse, c'est donc une conversation avec des arguments rationnels autour d'un concept, et disputer, c'est l'expression des sentiments.
Ah, donc les caractéristiques d'un génie seraient l'originalité, l'exemplarité et l'inexplicable.
C'est ça, et j'aimerais ajouter quelque chose. Cette notion de génie qui a été conceptualisée par Kant est déjà au XIXe siècle discutée, notamment par le philosophe Nietzsche. Vous connaissez sans doute Mozart, qui est défini comme un génie musical selon le modèle de Kant. Eh bien pour Nietzsche, le génie est une excuse, une façon de se protéger, de ne pas reconnaître sa propre médiocrité. Pour Nietzsche, il faut travailler, persévérer. On peut prendre l'exemple de Mozart, qui, comme je le dis plus tôt, est un génie musical, mais on apprend très tôt qu'en fait, il a travaillé pendant des années avec son père. Et peut-être qu'aujourd'hui, un génie sans travail ne vaut pas grand-chose.
Donc alors, pour récapituler, le beau serait la production d'un génie, créé par un mouvement naturel et spontané, presque instinctif, ne relevant d'aucun concept ni conformité artistique. C'est donc la fin de ce podcast. Merci à Enki Bardier et Dina Béchard pour leur intervention philosophique. Merci aussi à nos auditeurs et bonne soirée à tous.